Bonjour, merci d'être ici et bonjour à vous, Marie Mangès. Nous allons passer un peu plus de 50 minutes ensemble pour dialoguer autour de votre dernier ouvrage, mais pas seulement. Je me permettrai de revenir aussi sur votre premier livre parce que je crois qu'il y a quelques petit fil que vous tirez depuis le début, si ce n'est déjà la question du secret. On en parlera. Je vous donnerai aussi, pour information, quelques minutes avant la fin de notre discussion, la parole pour que vous puissiez aussi poser des questions à Marie Mangès. Les vérités parallèles, c'est votre deuxième roman, récit, publié chez aux éditions Finitude. L'histoire, cette fois, d'Arnaud Daguerre, qui, depuis petit, se rêvait grand reporter. En tout cas, je dis rêver, mais on verra que est-ce que c'était vraiment son rêve ou n'était-ce pas un rêve par procuration, un rêve par peut-être empêchement. Et il finira par le devenir assez vite, assez bien même, puisqu'il deviendra un grand reporter dans un grand journal. Il sera très vite reconnu comme quelqu'un un grand journaliste. Il recevra le prix Albert Londres, donc le summum, le Graal, pour les journalistes, mais nous lecteurs, à force de lire de page en page, on se rend bien compte que même s'il a touché au sacre Graal, c'est pas forcément le costume qui lui va très bien. Voilà, je vais le présenter comme ça. Je vais essayer de rien déflorer, quoique, dès le départ, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez construit aussi votre narration un peu comme, pas comme un polar, mais tout de même, on est en tension tout le temps avec lui, parce que il se trouve, et je peux le dire, qu'Arnaud est un peu un imposteur. Alors, je vais dire un gentil imposteur, parce qu'il ne veut de mal à personne, parce qu'il aimerait bien faire son métier comme il faut, mais il a un gros défaut, c'est qu'il est plutôt timide, il est plutôt empêché, et il va construire son métier d'écrivain sur de gros mensonges. Voilà. Et il va plutôt utiliser ce qu'il sait très bien utiliser, c'est l'imagination. Et plutôt que d'aller sur le terrain, plutôt que d'aller rencontrer les gens, il va finir par inventer des choses. Et ça va tenir jusqu'à ce qu'à un moment, les choses ne tiennent plus. Je ne vais pas aller plus loin, mais avec ce livre-là, vous questionnez le rapport à la réalité, vous questionnez le rapport à la vérité, vous questionnez la fiction, le mensonge, le secret, qu'est-ce qui se cache derrière cet homme de 30 ans, le gendre idéal, le mari parfait, le père parfait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et à travers votre écriture, votre récit, je pense même qu'on va plus loin, on peut questionner votre travail à vous, d'écrivaine, puisque cette histoire d'Arnaud est inspirée d'un fait réel, d'une vraie histoire d'un journaliste allemand, vous allez nous en parler. Et je me disais jusqu'à quel point vous respectez, vous aussi, finalement, la réalité. Quelle est la part d'imaginaire que vous vous permettez ou pas? Et voilà un jeu qui est presque comme des poupées russes. Vous voyez, votre écriture, c'est finalement inspiré d'une histoire vraie. Mais qu'est-ce qui est vraiment vrai dans cette histoire? Et puis plus on soulève les poupées russes, plus on se pose la question de cette imagination. Et c'est un matériau que vous utilisez, que vous questionnez. Et c'est finalement à travers tout ça, notre propre rapport à nous face à l'information, face à ce que nous disent les journalistes, que vous questionnez, et à la vérité. Voilà, je présente un peu grossièrement. Je peux vous dire un peu deux, trois choses de vous. Vous êtes anthropologue. Vous avez notamment mené des recherches en Turquie, si je ne m'abuse, des recherches sur les minorités religieuses. Vous êtes allé beaucoup sur le terrain. On verra en quoi le métier ou le travail d'anthropologue peut aussi servir le travail d'écrivaine. Et vous avez publié donc en 2021 votre premier roman, Le parfum des cendres, où on suivait Sylvain, un thanatopracteur, j'arrive à le dire, qui portait en lui un lourd secret. Et voilà la question là aussi du secret que vous posiez déjà comme question dans le premier ouvrage. Peut-être commencer par cette histoire vraie, peut-être nous dire comment vous êtes tombé sur l'histoire de cet Allemand qui a inspiré les vérités parallèles et à quel moment vous vous êtes dit que c'était un vrai matériau de fiction pour vous.
Alors déjà, merci à tous d'être là. Je suis très contente d'être ici. Et oui, effectivement, c'est l'histoire des vérités parallèles est tirée d'une vraie anecdote, qui est l'histoire d'un journaliste allemand qui s'appelle Klaas Relotius. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était un journaliste au Spiegel, donc qui est vraiment la référence du journalisme d'investigation en Allemagne. Un journal extrêmement sérieux, extrêmement prestigieux. Et c'était un journaliste qui était multiprimé, qui était vraiment considéré comme l'avenir du journalisme en Allemagne, un jeune reporter absolument brillant. Et il s'est avéré au bout de plusieurs années qu'en fait, ce journaliste avait bidonné absolument tout, mais à des niveaux stratosphériques. C'est-à-dire que vraiment, il inventait des personnages entiers. Enfin, c'était vraiment c'est délirant, quoi. Et donc, quand j'ai vu cette histoire, moi, ça m'a fascinée à plusieurs titres. C'est que déjà, ça pose forcément la question de comment on en est arrivé là, pourquoi ça a pu se tenir pendant plusieurs années sans que personne se doute de rien. Ça soulève forcément ces questions-là. Et puis, en fait, ça faisait écho aussi à des questions plus personnelles que je me posais, moi, sur précisément la frontière entre le journalisme et la fiction. Et moi, c'était des questions que je m'étais posées à titre personnel pendant ma formation en journaliste, parce qu'avant d'être anthropologue, j'avais fait une formation en journalisme avec des stages, etc. Et en fait, je me suis rendu compte moi-même, quand je pratiquais le journalisme, que j'avais beaucoup de mal à savoir où était cette frontière. En fait, le journalisme, on se base sur des faits réels, observés, mais il y a l'enjeu de raconter une histoire avec, donc on est déjà dans une forme de transformation de la réalité, de reconstruction du réel, et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, cette frontière-là, elle n'était pas claire du tout. Et donc, quand j'ai vu l'histoire de journaliste, ça a ravivé toutes ces questions-là que moi, je me posais sur la question de cette frontière-là. Et qu'est-ce qui différencie exactement le journalisme de la fiction du roman ? Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça m'est paru comme un matériau de romanesque, en fait, absolument génial, parce que ça permettait de questionner un petit peu tout ça, mais via le roman.
Alors, vous avez effectivement, vous racontez, hein, on suit Arnaud dans le journal dans lequel il travaille. On suit aussi ses inquiétudes, parce qu'il va travailler au quotidien avec une seule peur en lui, c'est la peur qu'on remarque qu'il a menti. Mais vous faites quelque chose de plus, c'est que vous allez puiser dans son enfance. Et vous êtes allé chercher plus loin. Est-ce que ça, c'est votre part d'imaginaire ? Parce que je reviens à la deuxième partie de ma question. C'est à quel moment vous avez respecté totalement l'histoire de Klaas et à quel moment vous avez aussi décidé de tirer les fils et d'en faire un vrai matériau de fiction ? Et est-ce que c'est justement d'aller chercher dans l'enfance, dans la jeunesse et la genèse peut-être de ce qui va construire le mensonge ?
Oui, alors après, effectivement, initialement, le personnage est inspiré de Klaas Relotius. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste inspirée de cette histoire-là d'un journaliste qui bidonne au même niveau. Je me suis aussi, ce que j'ai retiré du matériau réel, c'est certains traits de personnalité qui ont été analysés par ses collègues au Spiegel sur Klaas Relotius, par exemple le fait qu'il était extrêmement modeste, que c'était loin d'être une grande gueule, comme l'image qu'on a habituellement de l'imposteur, très flamboyant, très grande gueule, et en fait non, il était décrit par ses collègues comme étant extrêmement modeste, beaucoup d'humilité, malgré tout le succès qu'il avait, et ça me paraissait être un trait de personnalité extrêmement intéressant, donc en fait j'ai pris ce trait-là. Et je me suis arrêtée là, c'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, pour le coup, le personnage est purement fictif, tout ce qui peut se passer dans son enfance. Après, à partir de là, j'ai laissé travailler mon imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, Klaas Relotius, j'ai aucune idée de qui sont ses parents, son environnement familial, qu'est-ce qui l'a conduit là. À partir de là, moi, j'ai absolument aucune idée. C'était pas ça qui m'intéressait d'aller chercher de son côté-là à lui. À partir de ce moment-là, je suis vraiment partie dans la fiction et je me suis demandé, OK, ce personnage-là, donc il va être français, il va s'appeler Arnaud. Comment lui, mon personnage-là, et non plus Klaas Relotius, comment lui, il en est arrivé là ? Quels sont les éléments explicatifs qui peuvent... quels sont les éléments qui peuvent expliquer qu'il en soit arrivé à ce point-là de mythomanie, d'imposture. Et donc, effectivement, ça m'a paru logique d'aller chercher dans son enfance des éléments qui permettaient de comprendre un petit peu cette démarche-là.
Avec une enfance qui empêchée, parce que des parents assez rigides, on peut le dire comme ça, qui finissent par très vite l'empêcher de lire des fictions pas assez sérieuses. Et lui va se mettre à lire plutôt des journaux. Et il va surtout avoir peur de décevoir. Je vais vous lire. « Faire les choses bien, écrivez-vous, ne pas se tromper. » Jamais. Arnaud a appris depuis sa plus tendre enfance, appris à ne pas décevoir, à deviner les attentes pour s'y glisser comme dans un étui de protection. À tel point que la première mauvaise note qui arrive, ça sera sa première falsification. Il va modifier pour éviter, non pas de se faire gronder finalement, mais pour éviter de décevoir. Et il va construire sa vie comme ça. Et ça reste quelqu'un effectivement de modeste. Il arrive dans le journal plutôt gentil, plutôt discret, comme l'image de ce journaliste allemand, et avec cette simple envie finalement de bien faire.
Oui, tout à fait. En fait, ça m'intéressait de prendre l'histoire d'un imposteur qui finalement ment non pas pour manipuler sciemment les gens, non pas pour les induire en erreur, mais juste en fait pour se... quelque part pour se protéger, pour masquer sa propre timidité, pour masquer ses échecs, quelque part, ce qui me semble quand même être quelque chose de très humain, enfin, qu'on a tous fait à un moment donné dans notre vie, ou qu'on a tous eu la tentation de faire. Et donc c'était vraiment ce côté-là que je voulais exploiter, à quel point en fait on est enfermé dans l'image que les autres ont de nous, la peur de décevoir, et jusqu'où, en fait, si on pousse le bouchon très loin, jusqu'où ça peut aller, ça, cette peur, en tout cas cette volonté de se conformer à tout prix à l'image que les autres ont de nous, à cette fiction que les autres se sont fait de nous, et ne surtout pas sortir de cette fiction-là. Et donc, en fait, c'était vraiment ce point-là qui m'intéressait et que je voulais creuser.
Alors, le deuxième point, c'est, puisqu'on est entre fiction et réalité, c'est que finalement, il a développé son imaginaire, son goût pour les personnage fictif, alors même qu'il n'en a pas lu, puisqu'il lisait plutôt des journaux, d'informations, etc. Et c'est effectivement le paradoxe aussi de cette histoire-là, c'est comment l'empêchement permet d'aller encore plus dans ce qui est interdit.
Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on observe, même sociologiquement, psychologiquement, c'est qu'à partir du moment où on interdit quelque chose, ça fait que renforcer le désir pour cette chose-là. C'est quelque chose qu'on observe. Et donc, effectivement, Arnaud a grandi, donc ce personnage a grandi avec des parents, comme vous le disiez, alors extrêmement cartésiens, qui n'avaient pas forcément une attirance pour la fiction ou les univers imaginaires très élevés. Et donc, ce gamin qui, en fait, vivait dans son petit monde imaginaire, qui lui était très porté par tout toute l'imagination, c'était quand même perçu un petit peu comme une tare, même si ça c'était jamais dit de façon frontale, c'était quand même ce qui transparaissait. Et donc lui-même s'est auto-convaincu qu'il fallait surtout pas aller dans cette direction-là. Mais en fait, plus on essaye de quelque part de lutter contre ses instincts, et plus ils ressortent, mais de façon très pernicieuse. Et donc, effectivement, il a utilisé ce qui était politiquement correct dans sa famille, à savoir le réel, les journaux, pour faire voguer son imaginaire. Et donc, en fait, il a développé tout un rapport imaginaire à l'actualité, donc un rapport très, très émotionnel et finalement très fantaisiste à l'actualité. Donc, il chassait le naturel, il revient au galop. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi d'autres.
On n'a pas dit qu'Arnaud Daguerre arrive au journal Le Miroir, puisque c'est le nom que vous donnez à votre journal, à un moment où Internet est en train aussi de prendre le pas sur l'information. Et on commence à poser ces mots, là, le fake news, etc. Et il arrive aussi à un moment où l'information commence à être perçue un petit peu différemment, à se poser la question aussi de est-ce que l'information est vraie, est-ce ce qu'on nous dit est vrai, et qui décide de ce qui est véridique ou pas. Finalement, entre l'imaginaire, la fiction, la réalité, le fake news, le pas fake news, on est dans quelque chose, et c'est ce que vous racontez finalement, où tout le monde se perd un petit peu. C'était important pour vous aussi de situer ce livre-là, la génération d'Arnaud, à un moment où les fake news et Internet sont en train de prendre totalement le pas sur le journal papier, l'information classique.
Oui, totalement. Pour moi, ça faisait vraiment partie du contexte. C'est qu'en fait, Arnaud arrive dans le journalisme à un moment donné où le journalisme justement est en période de fragilité. Enfin, c'est vraiment un vrai moment charnière où ça arrive l'émergence d'Internet, de toute la presse en ligne. Et ce que ça soulève aussi comme question, c'est toute une émergence de personnes amateurs non journalistes qui vont aussi se mettre à diffuser de l'information. Ça arrive au début de Twitter, au début où en fait de la remise en question mais extrêmement profonde de ce qu'est un journaliste, de la plus-value du journaliste par rapport justement à des gens qui ne le sont pas et qui vont quand même faire un travail d'information mais plus ou moins, justement, on va dire, véridique ou rigoureux ou solide. Et donc, en fait, une période, finalement, de fragilité du journalisme. Aussi parce que, du coup, c'est à partir, il me semble que c'est à partir de ce moment-là que énormément de pression a commencé à se mettre sur les épaules des journalistes, aussi par rapport à la concurrence d'autres formes d'informations venues des réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, il arrive à un moment, finalement, qui était très propice pour ce genre d'imposture, parce que dans un contexte où les journalistes se devaient encore plus qu'avant de gagner du lectorat, d'écrire des textes qui soient qui arrivent à capter en fait de l'auditoire, à jouer sur les émotions, parce qu'en fait il y avait la concurrence de tout un tas d'autres choses venues d'internet. Donc en fait ça me semblait intéressant de le positionner à ce moment-là où toutes ces questions-là autour du journalisme se posaient, et évidemment la question des fake news, de ce qui différencie les fake news d'un vrai travail journalistique.
Vous dites la pression, une autre pression c'est qu'effectivement donc internet, une espèce de pression des autres médias, et puis la question de l'argent, parce que c'est aussi une période qui est moins faste pour les journaux. On a potentiellement moins la possibilité de bouger, d'aller sur le terrain, puisque c'est quand même ce que fera Arnaud. Donc il y a aussi cette autre pression qui peut-être donne un autre rapport au journalisme, et cette pression qui peut être très lourde à porter pour certains et certaines journalistes.
Oui, tout à fait. C'est la période... parce qu'en fait, le modèle économique de la presse en ligne était quand même compliqué. Donc en fait, c'est arrivé au moment donné où en fait tous les journaux commençaient à avoir leur extension en ligne, mais sans forcément avoir des modèles économiques associés. Donc c'est là où il y a eu peut-être une différenciation entre des journalistes qui restaient au desk, c'est-à-dire qui ne faisaient pas du tout terrain, et les grands reporters qui eux avaient cet immense privilège et ce privilège de plus en plus rare d'aller sur le terrain, avec du coup la pression de plus en plus importante de eux ramener des vraies informations, et donc du coup peut-être aussi une sorte de mythification encore plus importante de la figure du grand reporter qui de fait du coup devenait de plus en plus privilégié dans ce contexte-là, et donc une énorme pression. Il y a aussi le fait que dans le livre, donc là dans le Miroir, qui est un hebdomadaire totalement fictif, par exemple Arnaud est envoyé seul sur le terrain. Aussi, on peut se questionner de l'importance budgétaire là-dessus. C'est qu'on n'a pas les moyens d'envoyer trois grands reporters à tel endroit. Donc, en fait, il est envoyé tout seul. Donc, ce qui laisse aussi la place à, potentiellement des dérives quand on a affaire à un journaliste avec une déontologie un peu douteuse, comme c'est le cas de notre personnage. Donc, en fait, il y a tout ce contexte-là, en fait, autour qui me semblait tout à fait propice, en fait, malheureusement, au développement d'une affaire comme ça.
On n'a pas dit la chose la plus importante, parce que finalement, c'est la grande question de... Certes, aller sur le terrain, c'est la façon dont on va le raconter. Et qu'est-ce qui fait un grand reporter et qu'est-ce qui fait un grand journaliste ? On en connaît et beaucoup, on va dire quelques Français dont on connaît les noms, qui sont passés à la télé, qui sont tous passés presque au roman, comme Aubenas, comme d'autres comme ça. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette question de qu'est-ce qui fait un grand reporter. Et je crois qu'une part, et c'est ce que vous dites, du grand reporter, c'est de savoir bien raconter. Et donc de bien savoir broder. Et donc de bien savoir utiliser les mots. Et finalement de faire une large place à l'imagination. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'était vraiment la grande question de ce livre-là ?
Alors, c'est tout à fait la grande question. Et c'est vraiment moi aussi la question qui m'interpelle, de voir à quel point autant de journalistes écrivent du roman, qu'il y a une vraie, on va dire, fraternité entre ces deux formes d'écriture et de récit. Ce qui va de pair aussi avec quelque chose qui, moi, m'avait interpellé à l'époque, qui est que dans les concours des grandes écoles de journalisme, il y a une épreuve d'écriture d'invention. Donc, ce qui semble impliquer que pour devenir un bon journaliste, il faut savoir écrire de la fiction. Ça questionne quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'on voit plein de journalistes qui font aussi des très bons romanciers. Et ça ne date pas d'hier. On a des Tom Wolfe aux États-Unis. On a Joseph Kessel qui a écrit à la fois du roman et qui a fait du reportage. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a des accointances en fait, particulières entre ces... Parce qu'en fait, il s'agit, comme vous dites, de raconter une histoire. À la fin, on va dire que l'objectif est... L'objectif est le même, c'est qu'il s'agit de raconter une histoire. Après, la façon de procéder, les méthodes diffèrent, mais quelque part, il faut ce talent de raconter des histoires.
Oui, parce que de l'autre côté, il y a un lecteur, comme pour un livre. Et il faut que le lecteur lise le texte jusqu'au bout et qu'on ait envie de partir avec lui. Et vous écrivez qu'Arnaud, au fil de ses articles, au fil de ses mensonges, il brode de mieux en mieux, de plus en plus, et il devient un très grand écrivain presque. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et votre livre va donc plus loin, c'est que quand on lève le nez, nous, de votre livre, on se dit, mais oui, bon sang, mais qu'est-ce que je vais chercher quand je lis un journal? Est-ce que je vais chercher que l'information ou est-ce que je vais chercher une histoire qu'on me raconte? Et là, la frontière est quand même très tenue. Et vous allez jusqu'au bout avec Arnaud Daguerre, bien évidemment, quoique... Parce qu'on pourrait se poser la question de, finalement, ces mensonges sont-ils de vrais mensonges? Parce qu'il brode avec quand même une réalité qu'il voit, même s'il n'ose pas aller interroger, interviewer, parce qu'il est très timide et qu'il préfère rester dans sa chambre d'hôtel à boire un peu trop de bière ou un peu d'alcool de l'endroit où il est. Il est à sa manière très proche de la réalité.
Oui, c'était ça aussi ce que je voulais illustrer. Et puis aussi, effectivement, une évolution d'Arnaud au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, au début de sa carrière d'imposteur, en fait, il est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la fake news. C'est-à-dire qu'il est sur du petit bricolage, mais qui vont dans le sens de ce que les lecteurs ont envie de lire, en fait. C'est ce qui fait aussi qu'au début, il ne se fait pas prendre. C'est qu'en fait, quelque part, il donne aux gens à lire ce qu'ils ont envie de lire. Il va jamais à l'encontre de leurs préjugés. Et donc, c'est là où, en fait, on pourrait le rapprocher de la fake news, c'est-à-dire d'une manipulation d'informations pour aller dans le sens de préjugés qu'on a déjà. Et puis, en fait, on voit qu'il évolue au fur et à mesure du livre, qui prend, en fait, que c'est finalement son imposture prend de plus en plus d'ampleur, mais aussi parce que, justement, il devient un meilleur romancier. En fait, il devient romancier et non plus seulement un petit traficoteur de fake news. C'est-à-dire qu'il y a un moment de bascule dans le roman où il va vraiment créer de toutes pièces un personnage, mais inspiré d'un sans-abri qui l'a rencontré, enfin, d'une façon un peu, enfin, quelque chose qui lui l'a beaucoup choqué, et en fait il va créer un personnage de djihadiste repenti, et là il va y mettre énormément de sincérité en fait dans ce personnage là et c'est là où à mon avis il bascule vraiment dans le roman, c'est-à-dire que il sort de la fake news pour aller plus dans le registre de la vérité, mais d'une vérité qui est celle du roman, qui n'est pas la vérité journalistique. Mais il y met une forme de sincérité, il y met des observations du réel qui viennent vraiment pas de nulle part, mais c'est juste qu'en fait, en l'occurrence, ce fameux djihadiste repenti n'a pas existé formellement, mais il est quand même inspiré de choses très réelles, très observées, d'une sincérité qui fait que c'est quand même porteur d'une certaine vérité, comme peut l'être la fiction, comme peuvent l'être des romans. C'est juste qu'en fait, c'est pas ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé une vérité journalistique, là où en fait, il a livré une vérité romanesque. Et en fait, pour moi, le problème, il est là. Mais qu'effectivement, il devient véritablement romancier au fil du livre et au fil de ses broderies, en fait.
Cela dit, un des responsables du journal dans lequel il travaille dit quand même une petite définition de ce que doit être un journaliste, l'apanage du bon journaliste, du souffle, du lyrisme, de la vie et de l'imagination. Quand même. Alors, effectivement, il faut de la réalité derrière, mais voilà. La question de la morale, parce qu'elle se pose aussi dans ce livre-là, et la morale de tout faussaire. Il y a une scène où sa belle-sœur, elle travaille plutôt dans l'art, et elle pose la question d'un artiste qui était un grand faussaire, qui a fait croire que ce qu'il faisait était un autre artiste, et on se pose la question finalement de la morale dans tout ça. Comment on se la pose, l'histoire de la morale, pour un journaliste comme Arnaud ?
Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Alors, c'est pas que la question est évacuée dans le roman, parce qu'en fait, elle se pose. C'est un roman qui parle justement de cette morale. Alors après, moi-même, j'ai pas de réponse à ces questions. En fait, l'idée, c'était de questionner et pas forcément d'en faire un roman moraliste sur ce qu'il faut ou ne pas ou ce qu'il faut pas faire dans le domaine du journaliste et qu'est-ce que la déontologie journalistique exactement, parce qu'en fait je suis pas sûre d'avoir les réponses à ces questions moi-même, mais l'idée c'était justement de questionner notre propre rapport à la morale, se demander par exemple face au personnage d'Arnaud dans quelle mesure ce qu'il a fait est mal, dans quelle mesure justement c'est un imposteur sincère ou non. C'était plutôt de questionner ça, en fait.
Dans quelle mesure ça peut être un génie, finalement, aussi, de la même manière que cet artiste dont parle votre ami, qui finalement dit le fait qu'il a réussi à tromper son monde, ça veut dire qu'il est un génie, encore meilleur. Et d'autres disent, non, c'est un escroc. Voilà, c'est de quel côté, finalement, on décide de se placer. Vous, en tant qu'écrivaine, à ce moment-là, à cet endroit-là, vous vous positionnez à quel endroit ?
Mais justement, je ne me positionne pas, je pense. Enfin, je ne tiens pas à me positionner spécialement. Enfin, je sais pas, honnêtement. En fait, je suis très mal à l'aise avec ces questions de morale parce que je pense qu'en tant qu'écrivaine, enfin, qu'écrivain et moraliste, ça ne fait pas la bonne affaire. Et donc, en fait, sincèrement, je sais que ça paraît très compliqué, mais j'ai vraiment pas de posture. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'essayer de comprendre, en fait. Mmh. On est face à ça. Moi, j'ai vu l'affaire de Klaas Relotius. Avant même de me dire que c'était mal, je me suis demandé, mais en fait, comment on arrive là? Pourquoi? Et donc, du coup, mon travail très modeste et très humble de romancière, c'était juste d'essayer de me poser la question et d'imaginer comment on peut en arriver là. Et pas plus que ça. Enfin, et en fait, ma posture s'arrête là. Quelque part, après, jauger qu'est-ce qui est de l'ordre de la morale, qu'est-ce qu'on doit faire, comment... Vraiment, alors là, je ne me sens pas du tout légitime là-dessus.
Alors, si on cherchait une morale d'une fable, par exemple, parce que ça pourrait être une fable aussi, oui. votre livre, c'est que à un moment donné, les personnages rattrapent peut-être la réalité, mais ça, j'irai pas plus loin, je laisserai les lecteurs découvrir. Mais tout de même, au-delà de la morale, au-delà de votre positionnement, alors, je comprends bien qu'il y a la question de comprendre et de creuser la question. Vous soulevez quand même une des grandes questions d'aujourd'hui, notre rapport à l'information, aux fake news et à la posture des écrivains. Oh, ça va s'arrêter. C'est peut-être Arnaud Daguerre qui vous appelle, monsieur. ou alors c'est une information importante. Voilà, ça s'est arrêté. Vous inquiétez pas, tout va bien. Vous soulevez une question importante, et ça, vous en avez conscience, bien évidemment. Et est-ce que, d'une certaine manière, plus vous avanciez avec Arnaud, plus vous avanciez avec sa posture dans ce journal, et avec cette question du rapport à la réalité, est-ce qu'il y a eu d'autres questions qui venait, et il y a le rapport aujourd'hui à la multitude d'informations sur le net et la question des fake news qu'on nous dit de plus en plus, et plus du côté, parce que là vous vous êtes tourné plutôt du côté du journaliste, mais là moi j'ai envie de vous poser la question plus du côté lecteur et lectrice. Est-ce que vous continuez à vous questionner, à essayer de comprendre même après avoir fini d'écrire ce livre?
Ah oui, moi j'ai l'impression d'être tout le temps en questionnement en tout cas personnellement, de toujours me poser la question de comment c'est fabriqué, même quand je lis un très bon reportage que j'ai aimé, toujours la question de, enfin ça m'obsède un petit peu de savoir, de connaître un peu la petite cuisine de ça, comment est-ce que ça a été fabriqué, qu'est-ce qui s'est passé là sur le terrain, le journaliste a vu quoi, comment est-ce qu'il a composé à partir de ça, comment est-ce qu'il a agencé tous ces éléments, ça m'obsède un peu, donc du coup ça reste des questions un peu lancinantes comme ça. Et après effectivement oui, ce qui renvoie à la question des fake news, à chaque fois quand on est face à une information, se demander mais d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, de quel matériau ça part, qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire, quelle est l'intention derrière, donc effectivement, enfin ça c'est des questions des questions que je me pose à titre personnel à peu près tout le temps, et c'est justement pour ça que c'était quelque chose que je voulais questionner aussi à travers le roman, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Un petit peu quand même. Il y a quelque chose que vous questionnez aussi, parce qu'au-delà de cette imposture, il y a le personnage d'Arnaud qui est fascinant et qui montre comment il n'est pas bien dans la société. Et là, je vais vous lire, et justement sur la question d'une société, finalement, de l'illusion, une société où on doit tenir un rôle. Et ça, je trouve que vous le racontez plutôt bien. C'est là-dedans qu'il est né, qu'il a grandi dans ce monde de courtoisie sophistiquée, ce monde de pieux mensonges et de secrets vertueux, ce monde où l'on tient pour acquis que la société est une scène de théâtre, où chacun doit réciter son texte et taire ses pensées, jouer le jeu et tenir son rôle pour le bien de la troupe, pour que se déroule, sans couac et sans impair, l'histoire bien ficelée d'un dramaturge habile. C'est une vraie critique de la société aussi que vous faites, Marie Mangès, avec ce livre. Ou est-ce que c'est moi qui le lis comme ça, et ça m'arrange bien de le lire comme ça. Mais tout de même, cette idée de bien habiller, finalement, bien se tenir, bien s'habiller, qu'on nous apprend assez vite quand on est petit, tiens-toi droit, fais ci, pas de travers, etc. Vous allez aussi là-dedans.
Oui, oui, totalement. En fait, c'est vrai qu'au-delà de la seule question du journalisme, qui est centrale dans le roman, moi, ce qui m'intéressait, c'était tout simplement la question de la fiction, mais toutes les fictions. C'est-à-dire les fictions qu'on se crée nous-mêmes. On est sans arrêt en train d'être dans la fiction. On se fait des fictions sur nous, qui on est. On se fait des fictions sur ce que les autres sont. Et en fait, on est sans arrêt enfermé comme ça dans un tissu de fiction. C'est un invariant anthropologique quelque part, et c'est évidemment aussi un petit peu amplifié par les réseaux sociaux. En fait, on raconte une histoire de nous en permanence, tout le temps, et c'est comme ça. Et en fait, ça a toujours été comme ça. On se raconte des histoires. Et donc, en fait, c'était vraiment ça aussi, c'est que d'interroger ces fictions de nous-mêmes et ces fictions des autres qu'on se fait tout le temps, à n'importe quel moment, qu'on le veuille ou non. Par exemple, dans le livre, il y a aussi beaucoup de quiproquos. On a l'impression que l'autre, qu'on sait ce que l'autre a en tête, alors qu'en fait, pas du tout. On est totalement à côté de la plaque. Mais en fait, ça arrive tout le temps. En fait, on se fait des films sur les autres en permanence. Et donc, c'était aussi vraiment ça, pour moi, la question du livre, c'est fiction. Et sachant que après j'ai peut-être une petite déformation, justement, sociologique, parce que je suis anthropologue de formation, et en sociologie, y a un grand homme, du nom d'Erving Goffman, qui a utilisé la métaphore théâtrale pour parler de nos relations sociales, en fait. Il disait que toutes nos relations sociales, en fait, c'est une énorme scène de théâtre, et qu'en fait, on fait que réciter un script toute la journée. Et moi, j'aime bien cette idée, j'aime bien cette métaphore, je la trouve très juste pour expliquer, en fait, nos relations sociales. En fait, on est tout le temps un peu en train de jouer au théâtre et de jouer un rôle, et de jouer alors on joue à être nous-mêmes, mais on joue quand même un rôle. Et donc, c'est un peu ça aussi que j'ai injecté dans le roman, quelque part, toute cette dimension théâtrale de nos relations, tout le temps, à n'importe quel moment, qu'on le veuille ou non.
C'est en ça que votre métier d'anthropologue rejoint votre métier d'écrivaine ?
Entre autres, oui, je pense qu'il y a plein de correspondances, en fait, ne serait-ce que sur, alors aussi, les méthodologies, hein, parce que quand on est anthropologue, on va beaucoup sur le terrain, c'est même la base du métier, et donc ça rejoint des questionnements qui sont très proches de ce que peuvent vivre des expériences très proches de ce que peuvent vivre les reporters sur le terrain. Enfin, on est quand même sur des méthodologies qui sont extrêmement proches, donc c'est aussi ça que j'ai mis dans le roman.
Est-ce que ça vous a les questionnements que se fait Arnaud, la peur d'être pris, la culpabilité qu'il va porter aussi par moment en lui, est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles on est très attentif quand on est anthropologue, on doit être très précis parce qu'on est aussi chercheur, etc. Ça, c'est la question pour l'anthropologue, mais aussi quand on est écrivain, quand on écrit un livre, est-ce qu'on se pose aussi cette question-là d'être dans la vérité, de respecter ce qu'on veut dire, ou là c'est très différent et tout est permis en littérature?
Alors non, moi je pense pas que tout soit permis en littérature, et que justement il y a une... Mais ça, pareil, encore une fois, c'est peut-être ma déformation professionnelle d'anthropologue. Moi je pense qu'en tant qu'écrivain, on a un devoir quand même aussi de vérité et de documentation qui est important. Et quand on parle, je sais pas moi, des attentats, des émeutes de 2005, on se doit d'être quand même véridique sur les faits, d'aller se documenter, d'être sûr de ne pas raconter de bêtises. Donc en fait, on a quand même un devoir de documentation, je pense, qui est important, et un devoir d'être le plus proche possible de la réalité, de ne pas juste sortir des trucs fioulou de notre imagination. Et ce n'est pas parce qu'en fait, c'est de la fiction que ça nous dédouane de rigueur documentaire, quoi. Enfin, ça, j'en suis vraiment convaincue. Mais après, en soi, le travail de romancier n'implique pas forcément un vrai travail de terrain. Je trouve qu'en fait, il y a quand même des questions spécifiques qui se posent quand on est au terrain, sur le terrain, en contact avec les autres. Il y a aussi toute cette question du rapport, en fait, avec les autres, quand on est censé faire des entretiens, des interviews. Je trouve qu'il y a encore quelque chose, d'autres choses qui se greffent par-dessus, qui est, des choses de... Enfin, qui sont relatifs à la relation avec les autres, l'idée de ne pas déranger, parce qu'on se sent quand même très, très voyeuriste, en fait, qu'on soit journaliste ou qu'on soit anthropologue, on vient déranger des gens pour leur demander de nous raconter leur vie. Ils n'en ont pas forcément envie, on se sent très voyeuriste. Et donc il y a cette idée qu'à la fois, on veut rapporter des informations qui soient le plus juste possible, le plus précise possible, et en même temps, on veut pas non plus, il y a un devoir éthique qui consiste à ne pas quand même déranger les gens, à pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Enfin, donc en fait, il y a plein de questions qui se posent. Et pour le coup, bon, en tant que romancier, on est quand même assez peinard vis-à-vis de ça. Donc voilà.
Quelle est la place du secret? Parce que la question du secret, elle est là, le secret qu'on garde. Il y avait déjà du secret dans le premier roman. Est-ce que le secret, pour vous, c'est un des meilleurs matériaux pour la romancière?
Oui, bien sûr, je trouve que c'est un matériau romanesque absolument, absolument fascinant. Alors après, je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Moi-même, c'est des questions qui m'interrogent aussi. Pourquoi est-ce qu'on cache des choses? Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Qu'est-ce que ça veut dire de nos rapports aux autres? Je trouve que la question du secret, elle permet aussi d'explorer la vulnérabilité et la fragilité. C'est-à-dire qu'en fait, on cache des choses... Qu'est-ce qu'on cache de nous en ayant des secrets? En général, c'est quand même plutôt pour cacher des formes de vulnérabilité. Et donc, du coup, c'est une façon d'explorer ces fragilités-là qui m'intéressent en tant que romancière. J'aime bien explorer des personnages qui ont... qui sont pas lisses, qui ont justement des... Enfin, ça paraît très cliché ce que je veux dire, mais qui ont des failles, qui ont des vulnérabilités et qui sont d'autant plus vulnérables qu'ils ne l'assument pas, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette vulnérabilité qui ne dit pas son nom et qui précisément ne s'assume pas. Et c'est ça qui rend les personnages d'autant plus fragiles, en fait, je pense.
Et puis, il y a la question de la transmission. Je trouve aussi que vous tiriez aussi ce fil-là, la transmission. Alors, la transmission qu'on choisit, il y a trois choses. Il y a trois formes de transmission. Il y a celle que lui-même invente parce qu'il porte le nom d'Aguerre, donc il dit tiens, c'est peut-être pour ça que je suis dans l'illusion, dans l'imagination, vous nous expliquerez. Et puis il y a la transmission, celle que nos parents nous donnent, et là on l'a dit un peu sur l'empêchement. Et puis il y a ce qu'on va transmettre à nos enfants, et il pose un regard sur son fils avec une peur que son fils devienne peut-être aussi timide que lui, et ça l'angoisse. On parle de Daguerre, le choix que vous avez... là, ça, c'est la fiction. Vous décidez de lui donner le nom Daguerre, mais ça l'arrange bien, finalement, parce qu'en allant chercher les définitions dans Wikipédia et en connaissant l'histoire du daguerreotype, il se dit, c'est pour ça que je suis comme ça. Vous nous expliquez.
Oui, totalement. Alors, initialement, juste Arnaud Daguerre, c'est sorti comme ça. Enfin, c'était pas forcément choisi. Et puis après, il y a eu une post-rationalisation. Et je me suis rendu compte que ça lui allait extrêmement bien, parce qu'effectivement, Daguerre, Daguerre se renvoie à Louis Daguerre, qui est l'inventeur du daguerreotype, qui s'est aussi attribué l'invention de la photographie, alors qu'en fait, c'est pas vraiment lui. Donc en fait, il y avait ces deux dimensions de, on va dire, de rapport à la photo. Et en fait, dans notre rapport à la photo, on a aussi cette idée de rapport à la réalité, de capter la réalité, qui en fait est un peu trompeuse. Et puis la dimension d'imposture qui est associée à Louis Daguerre. Et aussi quelque chose qui m'intéressait aussi par ailleurs, c'est que j'ai appris que Louis Daguerre, initialement, était un décorateur de théâtre, en fait. Il était spécialisé dans les décos de théâtre. Et donc, je trouvais ça absolument génial, personnellement, dans mon cerveau malade, de me dire, en fait, que l'inventeur du daguerreotype, donc de la captation de réalité, en fait, venait du monde du théâtre et donc du monde de l'illusion. Je trouvais ça absolument génial, philosophiquement. Et donc, en fait, ça lui allait à merveille. Mais il y a aussi cette autre dimension, justement, dans le personnage, c'est que comme il s'appelle Daguerre et que lui-même s'est renseigné sur le personnage de Daguerre, en fait, ça l'a aidé à créer sa propre fiction. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui rejoint les fictions dont on parlait tout à l'heure, qu'en fait, on est tous enfermés dans nos propres fictions, c'est que Arnaud Daguerre, sachant ça, s'est dit qu'en fait, il était condamné. Il portait le nom Daguerre, en fait. Bah oui, évidemment que c'est un imposteur et un illusionniste. Il peut rien faire, il s'appelle Daguerre. Et donc, en fait, il s'autodétermine. Il s'est créé une fiction de lui-même dans laquelle il s'enferme vraiment lui-même. Et c'était cette dimension-là, imaginaire, qui m'intéressait, parce que je pense qu'on se crée tous des fictions de nous-mêmes dans lesquelles on s'enferme. Et ça peut être lié à notre nom de famille, à notre historique familial, à tout un tas de choses qui créent notre propre fiction et qui créent une sorte de destin un peu imaginaire et très enfermant, en fait. Et c'est le cas de ce personnage-là.
Sur la question du destin, on va en parler. J'ai deux questions, puis je vous laisserai la parole après sur cette transmission qu'on donne aux enfants et cette inquiétude qu'il a. Moi, ça m'a beaucoup touché, le regard qu'il pose sur son fils Martin. Vous écrivez « Le pauvre Martin est mal barré dans la vie », c'est ce que pense Arnaud. Il a peur pour lui, une angoisse sourde et diffuse. Il voudrait le protéger, lui dire qu'il faut s'endurcir, se préparer au pire, car le monde n'est pas tendre pour les rêveurs dans leur genre. Il craint que Martin subisse le même sort que lui, qu'il soit malade lui aussi. Il craint de lui avoir transmis son invalidité, de l'avoir condamné à vivre, comme lui, avec une tête trouée et la terreur chevillée au corps. Oui, il voudrait le serrer dans ses bras et lui dire tout ça, lui dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur, car son imagination le rend plus fort, et qu'il faut donc se cramponner à elle comme à une bouée secrète qu'il ne faudra jamais, jamais montrer. Vous lui faites penser quand même que le monde est dur pour les rêveurs. Est-ce que c'est ce que vous pensez ?
Oui, ouais, je pense. Mais je pense que le monde est très, oui, est assez cruel. Enfin, après, j'ai pas du tout de sympathie pour ce personnage-là, en l'occurrence. Hein. Je tiens à dire, et j'ai eu envie de lui foutre des tartes pendant une partie de l'écriture. Voilà. Mais par contre, je pense quand même qu'il, quelque part, c'est une forme de victime. Ouais. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très cruel qui m'avait aussi frappé dans l'histoire de Class Relutio, c'est la sévérité avec laquelle on juge ça, qui est d'une partie très légitime. Et en même temps, moi, je me questionne, ça me renvoie aussi à la sévérité des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais un enfant qui traite quelqu'un de mytho, c'est d'une violence. Enfin, moi, j'ai vu ça dans mon école primaire, une petite fille qui de fait, était très mythomane. Elle racontait des craques à longueur de journée. Mais le niveau d'ostracisation sociale qu'elle vivait, enfin, il y a une violence, en fait, énorme envers, justement, ceux qui inventent un peu, ces doux rêveurs, en fait. Mais avec en fait, c'est des mensonges très inoffensifs, d'une certaine façon, et je trouve qu'il y a il y a quand même une violence qui dit quelque chose de nous, en fait, aussi. Et donc oui, moi je pense qu'il y a une violence, et puis après dans la relation de, en l'occurrence, d'Arnaud avec Martin, il y a aussi cette idée de que nos enfants sont un miroir de nous-mêmes, et en fait ça lui fait peur aussi, c'est que quelque part cet enfant qui est très rêveur comme lui, il a très peur que ça, du coup, en fait, ça lui renvoie en miroir ce qu'il est, et il a très peur de se faire démasquer, en fait, à cause de son gamin. Il y a aussi ça qui projette sur son fils et qui en fait entrave ses relations avec lui quelque part. Donc il y a aussi cette dimension là dans leur relation.
Et vous avez nommé le journal Le Miroir aussi pour parler de ce jeu de miroir, comment on peut se regarder en lisant des choses. Je vais finir avec Le Pouvoir des mots, puisque c'est quand même le cœur du livre aussi. Il ne peut que savourer le pouvoir de ses mots, céder parfois à la douce griserie de savoir ces personnages existaient dans l'esprit de quelques milliers de lecteurs, de savoir que pour ces lecteurs, la matière qui jaillit de ses têtes devient réalité. Arnaud tient entre ses doigts ce pouvoir vertigineux, celui de transformer le réel, de créer des vérités parallèle, mais ce pouvoir a un prix et la réalité, hélas, se charge de ne jamais le laisser l'oublier. Le pouvoir des mots, je voudrais finir là-dessus, parce que c'est ce que vous utilisez, c'est devenu votre matière aussi. Est-ce qu'on a conscience aussi de ce pouvoir-là? Est-ce que les mots, aujourd'hui, ont encore plus de pouvoir avec la multiplication de tous les médias qu'il utilise à tort et à travers, et parfois pas forcément à bon escient?
Wow, vous avez 2 heures. C'est un sujet très philosophique. Je sais pas si les mots ont plus de pouvoir aujourd'hui. Moi, ce qui me fascine dans les mots, c'est justement le fait que, à la base, les mots, c'est super abstrait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, on parle de trucs écrits sur une page blanche. C'est totalement abstrait. Et juste, je trouve ça un peu magique qu'on puisse s'imaginer des mondes entiers juste à travers de trucs de signes abscon griffonné sur une feuille. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument magique là-dedans, et qui permet une relation hyper intime, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à l'image, je trouve que, en fait, ça, on a forcément un rapport hyper personnel aux mots. Quand on dit un mec grand avec les yeux marrons, on a une image dans la tête qui ne ressemble à l'image qu'il y a dans la tête d'aucune autre personne. Et donc, en fait, je trouve que les mots, il y a vraiment ce côté-là extrêmement intime, enfin qui est hyper fort. Donc oui, moi je trouve que, enfin, la possibilité de créer des mondes avec des mots, je trouve ça incroyable. Après, quel est le rôle justement des mots dans un univers qui est quand même beaucoup saturé d'images? Ça, je sais pas, parce qu'il y a aussi cette exigence que c'est pas accessible, qu'en fait c'est dur de lire un texte, ça demande un effort de concentration quand même important. On le vit tous, et donc et en fait, je sais pas quel est l'avenir de ce pouvoir des mots aujourd'hui. C'est une vraie question que je me pose.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, monsieur, avec le téléphone ou sans le téléphone? Allez-y. Non, je vous charge.
Merci.
Gentiment.
Merci. Il y a une notion de marchandage, enfin, d'économie du journal qui doit se vendre, et en tant que lecteur ou observateur de télévision, on a en tout cas souvent l'impression qu'on nous emmène dans les catastrophes systématiquement, parce que la nature humaine ça, je ne sais pas, ça lui convient. Et donc, vous n'y faites pas allusion. Et pourtant, enfin, j'ai pas entendu, mais j'ai eu des absences. Est-ce que l'intérêt de la vente du journal par l'attraction du lecteur ou du téléspectateur, c'est pas un poison pour l'information?
Alors, bah, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, de la concurrence aussi avec tout, enfin, justement, tout l'Internet, et du coup, la pression supplémentaire des journalistes de capter les lecteurs, de capter le public par l'émotion. Et donc, du coup, bah, le fait, oui, de parfois de flirter avec le catastrophisme, c'est une façon de, en fait, de jouer sur les émotions et donc potentiellement d'intéresser les gens. Donc oui, d'une certaine façon, ça fait partie des, on va dire, des dérives un peu du système aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis après, on... mademoiselle.
Bonsoir. J'aurais aimé savoir si dans votre livre, Arnaud Daguerre aurait-il pu être une femme? Et pourquoi avoir choisi son fils comme héritier de son caractère?
Ah, bonne question.
Très bonne question. Alors, figurez-vous qu'on me la pose souvent, cette question. Pourquoi c'est un homme? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Bon, déjà, parce qu'en fait, il s'avère que la source d'inspiration est un homme. Donc, en fait, je pense qu'assez spontanément, du coup, le personnage fictif a été un homme. Après, j'y vois aussi plusieurs autres raisons. D'abord parce qu'en fait on parle quand même d'un personnage qui refuse l'échec, qui s'est fait toute une fiction aussi comme quoi il devait être fort, ce qui renvoie aussi un peu à des clichés très masculinistes de « je suis un grand reporter avec mes biscottos, j'ai peur de rien et je vais aller déranger des gens sur le terrain ». En fait, il s'avère que c'est un stéréotype masculin auquel le personnage d'Arnaud correspond pas du tout. Donc en fait... Je me suis dit que le fait qu'il soit un homme pouvait aussi expliquer justement une partie de ses mensonges, parce que cette énorme pression à ne pas montrer sa vulnérabilité, à ne pas montrer sa timidité, c'est encore plus stigmatisé quand on est un homme, en fait. Donc je pense qu'il y a une partie de ça. Et après aussi parce que je préfère explorer la vulnérabilité chez des personnages masculins. Je trouve que c'est plus intéressant. Parce que moi, en tant que lectrice, j'ai l'impression que tout cet aspect émotionnel, vulnérable, il est très exploré chez des personnages féminins et moins chez des personnages masculins. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse plus d'explorer la force chez des personnages féminins et la faiblesse chez des personnages masculins. Donc, voilà. C'est de la post-rationalisation, hein, mais je me l'expliquerai comme ça.
On va rester sur cette question. Les vérités parallèles, Marie Mangès, aux éditions Finitude. Il y a des livres là. Si vous aviez d'autres questions, je pense que vous êtes encore un peu là. Et je suis en charge de vous dire que dans 10 minutes à 19h, il y a une rencontre avec Mélisse de Kerangal qui se passe à l'atelier 1. Merci à vous.
Merci beaucoup. Marie.